Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où le cloud est omniprésent. Il est utilisé pour déployer des applicatifs dans du cloud privé ou du cloud public et certainement également de plus en plus dans des clouds hybrides. Avec le cloud vient la vitesse et l'agilité, le DevOps et donc tout ce qui est industrialisation du déploiement des applicatifs et des infrastructures sous-jacentes. Bill Gates parlait il y a quelques années en fait de magie du logiciel. En fait, aujourd'hui, on va voir un petit peu de magie avec une solution faite par Canonical. Et cette magie, en fait, va pas être dans de l'industrialisation pure, mais plutôt dans une modélisation des services à déployer après sur des clouds, dont Microsoft Azure. Alors, bonjour Nicolas.
Bonjour Stanislas.
C'est pas souvent que, c'est même je pense une première que nos deux entreprises se retrouvent comme ça, en France en tout cas, pour du contenu.
En France, oui.
Effectivement, donc tu travailles chez Canonical.
Tout à fait, je suis solution architecte chez Canonical. Merci de l'invitation.
Et Canonical c'est quoi alors?
Alors Canonical c'est la compagnie commerciale qui est derrière Ubuntu, qui détient la marque et qui protège la marque aussi Ubuntu. Mais pas que Ubuntu, comme tu as pu le faire dans l'introduction, on fait aussi Juju. Donc Juju veut dire magie. Ubuntu est un mot Xhosa venant d'Afrique du Sud. Et Juju aussi, Juju veut dire magie. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça.
Exactement. Alors avant de rentrer dans Juju en tant que tel, c'est bien de rappeler un petit peu qu'on fait pas mal de choses ensemble, les deux compagnies, depuis quelques années déjà. Hein.
Tout à fait.
Et l'histoire, on va dire, le rapprochement Canonical Microsoft a commencé avec la virtualisation et a vraiment commencé à s'accélérer avec la partie cloud et la partie Azure.
Absolument. Microsoft et Azure a été un des premiers cloud à bien comprendre notre offre aussi sur la partie guest, puisqu'on a un programme pour avoir les images officielles Ubuntu supportées par Canonical directement sur Azure. Donc on a un partenariat commercial pour ça. Récemment, tu as pu faire la vidéo sur Ubuntu sur Windows 10 avec le sous-système Linux.
Exactement, donc qui va y avoir du Bash dans Windows 10.
Beaucoup plus que Bash. Ouais. C'est tout Ubuntu qui tourne. Et c'est le même, c'est exactement le même que celui qu'on fait tourner sur mon laptop en direct ou sur une VM dans Azure notamment et sur l'ensemble des clouds. On a aussi un partenariat à 3 avec Hortonworks sur HD Insight, donc une solution HD Insight, il y a de l'Ubuntu dedans et le support de Canonical qui vient en plus. Les gens ne le voient pas puisqu'on est en partenaire derrière, mais ça fait partie des solutions sur lesquelles on travaille et plein d'autres projets qu'on ne peut pas forcément évoquer aujourd'hui puisqu'ils ne sont pas publics. Et notamment aujourd'hui, je suis venu présenter la version bêta de Juju 2 qui a le bon goût de passer à l'utilisation d'Azure Resource Manager par rapport à la version qu'on avait avant pour vraiment bénéficier de cette spécificité d'Azure qui amène énormément pour les utilisateurs de cloud en général et ceux d'Azure évidemment.
Exactement. Alors, en gros, juste pour résumer, Azure Source Manager, c'est la nouvelle implémentation de notre plateforme Azure. On parle souvent de IaaS V2 chez Microsoft, même si ça ne veut pas dire grand-chose. L'idée, c'est de pouvoir arriver à modéliser sous une certaine forme l'ensemble des ressources à déployer, que ce soit des ressources de type PaaS ou des ressources de type IaaS. Donc tout à l'heure, tu parlais d'HD Insight, on était réellement dans du PaaS, mais là, aujourd'hui, on va voir un petit peu plus, peut-être un petit peu de IaaS, en fait, avec des machines virtuelles. Et l'idée derrière, effectivement, avec ARM, c'est de pouvoir modéliser les ressources d'une certaine manière. Et c'est clairement l'approche pérenne qu'on a dans Azure. L'ancien modèle était le modèle ASM qui était supporté et qui marchait très bien avec Juju 1 dans sa première édition. Effectivement, là, on va se permettre de prendre le Juju, le dernier, hein, entre guillemets, qui n'est pas encore tout à fait sec, mais qui marche très très bien. Bon, ça reste, on a aussi ces problématiques-là de bêta, mais qui fonctionne très très bien, effectivement, avec le mode ARM. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tous les deux.
Très bien. Donc un petit mot, j'avais présenté Canonical, donc voilà, c'est la compagnie qui vient derrière, qui m'emploie, et qui a fait Juju. Et donc on va passer sur la démo elle-même, puisque on aime beaucoup chez Canonical faire des démos live, vous pouvez regarder beaucoup de vidéos, et Juju. Juju veut donc dire magie, et on va passer à la démo, ça sera plus simple. Donc comme vous voyez, je suis sur Ubuntu et j'ai démarré Juju sur Azure. Donc ça, c'est la GUI de Juju. Pourquoi la GUI est importante? En fait, on a été Ubuntu est un des OS les plus utilisés sur tous les clouds, en général, combinés. Et on a fait ce pari du cloud très très en amont. On a inventé des choses qui sont utilisées partout aujourd'hui, par exemple Cloud Init, qui est compris la façon de déployer une machine virtuelle en IaaS avec Windows. Et du coup, on a travaillé avec les gens qui ont fait leur succès sur le cloud. Les startups que tout le monde connaît, Netflix et Co, qui ont fait leur succès en utilisant du cloud et en secouant l'industrie en allant très très vite. Et on a regardé comment ils travaillaient. Et on s'est adapté à leurs besoins. Et on s'est aperçu que très vite, ils utilisaient la façon de penser traditionnelle. Chaque développeur faisait une image, il mettait un tas de choses dedans, une stack complète, très complexe, et après il utilisait le cloud quasiment comme une photocopieuse. Puis dès qu'il changeait quelque chose, il changeait l'image gold, et puis il refaisait des photocopies.
Le fameux master instances. Qu'on maintient à jour,
en 6 mois, 5 équipes, 5 personnes.
5 façons de faire différentes.
T'as besoin de Bing, rien que pour retrouver quelle image faut déployer.
Ou de Google, ça dépend en fonction de ta...
Tant qu'à faire. et on s'est dit, on a rien qu'une API de IaaS, on peut faire mieux que ça. En compute, en informatique et en algorithmie, on peut faire mieux que ça avec une API. Donc on a reculé, on s'est posé, on a arrêté de courir. Comment on travaille dans la vraie vie? On prend des architectes, on va dans une salle, un tableau blanc, et on dessine des boîtes et des traits, c'est les services et les relations entre les services.
Ouais, j'avais un ami qui était architecte avec moi, et qui avait une phrase très juste, et qui était que l'homme est un être visuel. Effectivement, on résonne beaucoup plus avec un schéma qu'avec un gros texte abscon.
Tout à fait. Et on s'est dit, ce tableau blanc, entre le tableau blanc avec les boîtes et les traits, et une implémentation où on peut vraiment valider est-ce que les choses fonctionnent ou pas, il se passe des mois. Et on a une semaine pour faire un test, et en général, on fait on pédale en arrière parce qu'on s'est aperçu que tout ce qu'on avait vu sur papier, dans la vraie vie, ça ne marche pas. On s'est dit, et si on pouvait, avec le cloud, on part du tableau blanc et on a le service. Et puis ça ne marche pas tout de suite, alors on peut faire de l'essai-erreur d'architecture. Magique.
Il y a une chose d'ailleurs aussi que je pense que tu vas introduire, hein, c'est que là, tu parles d'un outil qui est très graphique. Alors, il y a la même chose en ligne de commande, parce que mon Linux. Mais également, il y a, d'après ce que j'en ai compris, et là, tu vas me corriger si je dis des bêtises, mais l'idée, la philosophie aussi de Juju, c'était de se dire, on va pas lire tous les bouquins pour être spécialiste de toutes les choses. On a tellement de solutions aujourd'hui qui sont dans le monde libre encore plus, qui sont disponibles de partout, qu'on peut pas avoir un spécialiste de chacune des solutions. Et le but, finalement, c'est de se placer un peu au-dessus et de fournir des choses prêtes à l'emploi qui sont facilement utilisables par des gens qui sont des non-spécialistes de chacune des différentes solutions qui sont dans une stack applicative.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. La boîte dans Juju, comme Juju veut dire magie, la boîte, on l'a appelé ça un charm. Et c'est notre façon d'encapsuler l'opération. Donc, plutôt que d'avoir un bouquin pour chaque techno, et le nombre de technos explose, rien que le nombre de databases disponibles, laquelle on choisit, rien que d'essayer de les installer les unes après les autres, c'est compliqué. On voit que rien qu'en faisant plus sur ma GUI, je peux déjà déployer Redis. Donc, c'est une database récente, mais je peux aussi chercher et déployer MySQL. Et dans Juju, ça va être plusieurs unités. Mais plutôt que de le faire sur un exemple très simple, à la 3 tiers, parce que ça, c'est des choses qu'on fait depuis 2 ou 3 ans, et c'était déjà du Juju 1, c'était très très simple, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, une solution d'analytics.
Donc là, je vois des petits éléphants, donc on doit avoir de la doupe derrière.
C'est ça. Et en fait, on a fait une fois qu'on assemble plusieurs choses ensemble, on appelle ça un bundle. Et en fait, un bundle, c'est un service complet. Donc, il faut vraiment voir Juju et les Charms comme une boîte à outils, une boîte de Lego. Et après, on peut fabriquer son service à soi et assembler un tas de choses qu'on n'a pas besoin de connaître. Je ne connais pas, j'ai jamais installé Hadoop à la main. Par contre, là, j'ai un cluster avec Spark, avec un resource manager, avec des slaves, les plugins et Zeppelin, tout ça a été déployé par Juju. J'ai pas eu à faire une seule comment j'installe Zeppelin. Et j'ai aussi l'ingestion, Flume, etc. Quand on passe dans le monde du big data et du machine learning, ça va ensemble, toutes ces choses-là peuvent devenir assez complexes et en plus, on mixe plusieurs équipes. Parce que les gens qui font de l'ingest, donc ils vont récupérer des data, les nettoyer et les ingérer dans le, map, dans le data lake, ne sont pas les mêmes qui gèrent le data lake. Et ceux qui extraient et les data scientists qui s'en servent sont encore d'autres personnes. Et donc quand on commence à intégrer toutes ces briques ensemble, ça devient très compliqué, ça fait des projets très compliqués. Là, j'ai déployé ça hier soir pour que ça soit up and running ce midi. Ça a pris une vingtaine de minutes et j'ai pas eu à lire un seul bouquin ou un seul manuel de 300 pages.
En fait, souvent on a... Quand on pense à Microsoft, on pense aux assistants, les fameux wizards. Donc là, on est encore dans de la magie, hein, la magie du logiciel. Où effectivement, c'était simple. On faisait, alors nous, on a une blague, on appelle ça le click-click next, next-next finish. Et effectivement, souvent, sans trop connaître, simplement en utilisant l'interface, on pouvait déployer des choses sans en être un spécialiste derrière du modèle. Ben là, c'est, je dirais, la même chose, mais à une échelle bien plus élevée, parce qu'en fait, chacun des charms est fait par des spécialistes des technos associés, donc les charms de Hadoop sont faits par les spécialistes d'Hadoop, les charms Kibana par les spécialistes de Kibana, etc., etc. Et en fait, quand toi tu modélises en tant qu'architecte, tu n'es pas forcément un expert de tous les éléments qui sont en dessous et comment ils se déploient. C'est fait pour toi par le charms, c'est bien ça?
C'est exactement ça. C'est les spécialistes, de la techno qui ont fait le charm. Et donc typiquement, le charm ici, Slave est ici. Ce qui est important de voir avec Juju, c'est que mon charm, mon service Slave, en fait, tourne sur trois unités. C'est trois machines virtuelles ici. Et si j'ai besoin, parce que mon service commence à être un petit peu à l'étroit, d'augmenter tout ça, je demande simplement à Juju d'ajouter des machines.
Et il va scaler automatiquement.
Et il va scaler. Voilà, j'ai 10 machines. Donc on a dans l'aiguille aussi ce qu'on appelle la machine view. Donc on peut voir quelle machine j'ai. Est-ce que j'ai utilisé de la containerisation? Parce que Juju sait faire de la containerisation directement.
D'accord.
Grâce à LXC, ce qui est aussi une invention de Canonical. Et qui permet de déployer dans des tout petits environnements. Donc on peut faire Juju déploiement sur un PC de développeur. Et grâce à Juju, parce qu'on a encapsulé l'opération des différentes briques dans les charms, et un autre point important, on peut l'encapsuler dans le langage qu'on veut, et ça c'est très très important. Les gens qui font de la dupe, il va être très très compliqué de leur expliquer que tout d'un coup ils vont devoir apprendre le Ruby. Parce qu'il faut passer
dans... C'est un autre métier.
C'est un autre langage, ils n'aiment pas, etc. Alors que là, ils peuvent utiliser le langage qu'ils veulent. J'ai même des charms dans le Charm Store, évidemment il y a un store, qui ont été, des gens ont récupéré du chef et ont rajouté toute la partie magie de Juju dans le charm, qui est notamment autour des relations. Chef va très bien pour installer une machine et répliquer ça, photocopie. Mais une fois que c'est déployé et qu'on veut changer un paramètre, veut changer le monitoring, on veut rajouter quelque chose, il faut tout réécrire. Alors que là, non. Et ils n'ont pas besoin, pour faire la relation avec le voisin, de forcer le voisin à apprendre leur langage, ce qui est souvent le cas avec d'autres technos.
Et, la beauté de la chose aussi derrière, tu disais quand tu faisais scaler et que tu changeais ton nombre d'unités, c'est que bon, vous appuyez sur les particularités de chacun des fournisseurs de cloud, hein, ça peut être de l'OpenStack, de l'Amazon, mais dans notre cas ici on parle d'Azure.
On est multi-cloud,
voilà.
Oui, tout à fait.
Et dans le cadre de Azure, en fait, ils utilisent en fait toutes les spécificités qu'on a sur Azure, c'est-à-dire que quand on va avoir comme ça plusieurs tiers, plusieurs objets et différents rôles. Chaque rôle est mis dans ce qu'on appelle un availability set ou un groupe de disponibilité. Et ça veut dire que si on fait monter le nombre d'instances de 1 à 10, par exemple, automatiquement, le fait que ces instances sont un seul groupe de disponibilité, ça veut dire que ça va ventiler les machines virtuelles sur différents, ce qu'on appelle les domaines de panne ou les domaines d'upgrade. Les domaines d'upgrade, c'est en gros les racks, et quand on dit bah, opération interne dans le data center de Microsoft, mise à jour d'un rack, d'un Tor switch ou autre, on va être sûr de pas, que toutes les VM soient pas sur l'applicatif, soit sur le même rack qui est mis à jour. Donc on a ce qu'on appelle les updates domaines. Donc automatiquement, c'est ventilé sur différents updates domaines quand tu vas faire monter le nombre d'instances, et également sur les fault domaines. domaines, donc les domaines de panne, on veut être sûr qu'effectivement, si on a trois instances, par exemple, d'un slave Hadoop, qu'elles ne soient pas en train de tourner sur un même rack physique dans un data center de Azure. Donc, ce sera automatiquement ventilé. Et ça, c'est fait de manière complètement automatisée. En fait, à la limite, on peut presque ne pas ouvrir la console Azure et tout se passe de manière automatisée. Et toutes les ressources sont modélisées, elles sont regroupées avec les nouvelles particularités qui sont liées au modèle ARM, c'est-à-dire les ressources groupes. Donc on va avoir un ressource groupe qui sera dédié au contrôleur Juju et un ressource groupe qui sera dédié en fait aux ressources derrière qui sont déployées par ce contrôleur Juju.
C'est ça, c'est exactement ça. Et on peut le voir ici. Donc c'est la spécificité en fait de Juju 2, c'est qu'on est multimodèle. Donc on a en Juju 1, il y avait un contrôleur avec un modèle.
Ouais.
Voilà. Et c'était déjà très bien. Mais on a vu que les gens avaient besoin de pouvoir aussi séparer un petit peu. Typiquement, je veux mon analytics, c'est un peu différent de mon frontal. Voilà. C'est d'autres équipes, c'est d'autres façons. Donc, on a fait un multimodèle où ça permet aussi d'essayer quelque chose sur le côté sans avoir besoin de tout recommencer. Mmh. Et c'est aussi parce que Juju a été fait multi-tenant. Donc c'est une offre qu'on peut aussi avoir dans des clouds privés publics directement intégrés dans le cloud.
Effectivement, chaque fois que tu vas créer un modèle en Juju, en fait, ça va générer derrière un ressource groupe particulier pour ce modèle. Et vous savez que dans un ressource groupe qui est un regroupement logique de ressources dans Azure, on peut appliquer du RBAC, c'est-à-dire déléguer des droits et des permissions, des accès, etc. On peut également appliquer des tags particuliers, éventuellement faire de la refacturation. Donc du coup, effectivement, si on a par exemple une chaîne applicative avec des bouts qui appartiennent au RH et des bouts qui appartiennent, je dirais n'importe quoi, au marketing, on est capable comme ça de les répartir dans différents ressources groupes et donc différents
modèles.
Modèle, voilà, merci, j'étais en train de perdre mes mots.
La modélisation, c'est tout l'enjeu. Là, on voit que je l'ai appelé Analytics.
Ouais.
Et si on va dans la console Azure, dans le portail,
ouais,
on voit que j'ai un modèle Analytics ici.
Voilà. Donc la terminologie, c'est Juju tiré avec le nom du modèle et puis après tirer un UID.
Un UID.
D'accord.
Alors ça paraît bizarre, mais c'est Juju qui s'en occupe. On n'a plus besoin des UUID et de tout ça.
Exactement.
D'ailleurs, c'est une autre force de Juju, puisqu'on fait tout en ligne de commande aussi, hein, évidemment. Alors, tout ce qu'on fait chez... J'ai tendance à ne pas le répéter, parce que tout ce qu'on fait chez Canonical, ou chez Ubuntu en général, on a une CLI, une API et une GUI. Donc, on a à chaque fois les trois, et l'API a toutes les infos. C'est le point d'entrée. Donc, donc, de toute façon, on a ça. Et un autre point intéressant... Parce que souvent, quand on fait du cloud, du scaling et notamment de l'auto-scaling, on va se retrouver avec un tas de d'UUID, d'IP.
C'est le principe.
C'est très bien pour un ordinateur. Ouais. Pour un humain, c'est compliqué. Alors que moi, ce que je veux, c'est aller voir. C'est aller me connecter sur mon instance Spark. Et ben, je demande à Juju. Je fais Juju SSH Spark. 0 et je suis sur mon instance Spark. Point. Et je peux faire mes actions, mes modifs, bouger mon workload, vérifier que tout fonctionne bien si j'ai un problème. Et donc j'ai vraiment séparé mes différents blocs, décrit mes relations. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est un export. On va avoir un fichier de descriptif.
Du YAML,
tout simple, lisible, à peu près.
Que tu pourras reproduire probablement sur un autre environnement.
Que je peux t'envoyer par email. Et toi, tu le testes sur une nouvelle zone d'Azure, etc., ou de nouvelles instances, parce que tu as plus de crédit. Et tu me dis, oui, mais là, cette relation-là, où j'ai besoin de plus d'unités, et on peut faire de l'essai-erreur d'architecture.
D'accord.
Et ça, c'est une première.
D'accord. Et donc, je suppose que si j'ai une machine un peu puissante, je peux également instancier un environnement de Juju sur du LXD.
Absolument. C'est vraiment fait pour.
Donc,
et le même, c'est-à-dire qu'on a la même description, les mêmes charms, la même façon d'encapsuler les choses qui peut être fait en local sur un LXD. On a aussi un outil qui s'appelle MAS pour faire en métal.
Des gens
qui vont faire de l'expérimentation typiquement là-dessus en bare metal, dans Azure. Et qui ensuite, sur des très très larges, sur des choses très 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 demandeuses en compute, vont repasser sur du bare metal pour y aller fort. Dans ces cas-là, on a juste besoin d'envoyer ce fichier YAML qui décrit la chose, qui après on le fait scaler Donc c'est vraiment au niveau de... Et là, c'est là que l'API va être importante, quand on va vouloir faire des actions. Juju, il sait comment on fait. Il sait comment on fait scaler un data lake. C'est pas lui qui sait dire qu'on doit faire scaler un data lake. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait.
La limite de la magie. La magie, il faut quand même des humains derrière aussi qui ont un petit peu...
C'est quelque chose qui doit être fait au-dessus. Ça peut être un humain ou ça peut être du software, puisque c'est une API.
Encore plus de magie.
On a déjà plein d'outils de monitoring qui existent. Et les KPI, pour beaucoup de ces choses-là, sont déjà existantes. Donc, plutôt que de forcer les gens à utiliser, à revoir entièrement la façon dont ils font le monitoring et les métriques, nous, on fournit une façon simple de savoir comment on scale. Et la décision peut rester avec l'outil qu'on a déjà, puisque cette métrique, on l'a déjà. Il suffit de rajouter à l'outil l'appel à l'API pour aller faire ça. Et donc, on sait modéliser n'importe quoi. C'est ce qu'on... Le terme qu'on emploie aujourd'hui, c'est le big software. C'est un peu un dérivé du big data, mais déployer un cloud privé, c'est du big software. Il y a plein d'éléments, 7, 8, 9 éléments qui doivent se combiner, qui doivent pouvoir scaler indépendamment les uns des autres. Et ça, c'est rien du tout par rapport aux solutions qui arrivent de machine learning, de big data, etc., qui sont encore plus complexes. Et on sait que pour être successful, pour être vraiment dans ce qui va gagner dans les mois qui viennent, il faut être capable de consommer toutes ces technos qui changent, qui vont vite, de façon efficace, et pas passer son temps à installer une machine. Donc c'est Juju qui le fait.
Je pense que ce sera presque le mot de la fin, vous l'aurez compris, hein. Juju, derrière le côté magique, effectivement, c'est gagner du temps, en fait. C'est gagner du temps, en fait, en modélisant, en étant capable, en fait, de déployer des workloads dont on n'est pas forcément le spécialiste, mais dont les spécialistes sauront le consommer après eux de manière tout à fait correcte. On a vu ici, c'était des workloads applicatifs qui étaient très open source, parce qu'effectivement, Canonical, par définition, vous êtes par définition open source. À savoir, c'est qu'il y a des charms qui commencent à arriver dans le monde, entre guillemets, Microsoft, avec des charms Active Directory, des charms pour déployer du SharePoint, du SQL Server, du SQL Exactement. Express. Et donc, on espère que ça va s'agrandir un petit peu. Sachant que derrière, effectivement, après, on déploie un petit peu sur le cloud qu'on a envie, le fournisseur. Ça peut être Azure, ça peut être d'autres solutions. Mais notion d'idempotence à retenir, on modélise et on peut réutiliser ailleurs et déployer où on a envie. Mais merci Nicolas. Je pense qu'on va avoir l'occasion de se revoir et on va devoir faire d'autres vidéos ensemble.
On a d'autres sujets, voilà. C'est sûr.
Donc on vous dit à bientôt sur Microsoft Experience.